Merci d'écouter RFI. Il est 5h ici à Paris, 4h en temps universel, 7h à Mamoudzou. Un nouveau journal avec vous, Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour Simon, bonjour à tous. À la une, 2 semaines après la chute de Bachar al-Assad, ce défi pour les autorités syriennes, faire revenir les enfants nés dans les camps de réfugiés. Reportage dans un instant en Jordanie. Journée de deuil national ce lundi en France pour rendre hommage aux victimes du cyclone Chido qui a balayé Mayotte il y a une semaine. Une minute de silence sera observée à 11h, heure de Paris. Au sommaire également, alors qu'il doit faire son retour le 20 janvier à la Maison Blanche, Donald Trump menace de reprendre le contrôle du canal du Panama. Les détails dans ce journal. Et puis, les livreurs encore et toujours victimes de discrimination 7 mois après la mise en place d'un système d'alerte. Quel est le bilan ? Reportage à suivre. 2 semaines après la chute de Bachar al-Assad, Ahmad al-Sharray, le nouvel homme fort de la Syrie, annonce que toutes les armes du pays vont passer sous le contrôle de l'État et dit œuvrer à la protection des minorités. L'autre défi, c'est celui des enfants nés dans les camps de réfugiés. Après plus de 10 ans de guerre, ces enfants n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine. Pourtant, ils vont devoir y retourner. Reportage dans ce camp de Zaatari en Jordanie avec le correspondant de RFI, Mohamed Erami.
Depuis 13 ans, des enfants syriens grandissent dans les camps de réfugiés en Jordanie. Ils n'ont connu que la vie de réfugiés, aucun souvenir de leur pays, juste des récits de leurs parents. Aujourd'hui, avec les changements en Syrie, le retour semble inévitable. Mais pour ces enfants, c'est un dilemme. Un pays inconnu, un quotidien difficile. Zuhur Adnan, 10 ans, exprime ses sentiments d'incertitude.
Je suis syrienne et j'aime la Syrie. Mais je ne sais pas du tout où nous allons vivre parce que papa et maman m'ont dit que notre maison à Homs a été détruite. Je ne sais pas non plus comment seront les écoles là-bas.
Les parents ont essayé d'inculquer l'amour de la Syrie à leurs enfants, mais beaucoup d'entre eux ont peur de la réaction de leurs enfants face au retour, comme le raconte Naha, mère de 3 enfants nés à Zaatari.
Au final, la Syrie, c'est notre pays et nous devons y retourner. Mes enfants s'adapteront certainement. C'est vrai que cela prendra beaucoup de temps, mais vivre dans notre patrie, c'est bien mieux que de rester réfugié.
Depuis 2011, plus de 200 000 naissances ont eu lieu parmi les réfugiés syriens en Jordanie. Le plus vieux d'entre eux a aujourd'hui 13 ans.
Mohamed Erami, Amman, RFI.
Et hier, le chef des enquêteurs des Nations Unies sur la Syrie, dont le travail consiste à rassembler les preuves sur les atrocités commises dans le pays pendant la guerre, a indiqué hier avoir demandé au nouveau pouvoir l'autorisation d'enquêter sur le terrain. Autre question qui se pose désormais en Syrie, c'est celle de l'avenir des 2 bases russes installées dans le pays. Des avions cargo y ont été aperçus en train de charger du matériel direction la Libye, dans les zones contrôlées par le maréchal Haftar, un mouvement inacceptable, a déclaré jeudi le Premier ministre de l'Union nationale, Abdulhamid Dbeiba, qui mettrait par ailleurs en difficulté le maréchal Haftar sur la scène nationale et internationale. C'est ce que pense Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Ça va être dangereux sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan national, il va finalement être perçu comme celui qui, comme Bachar al-Assad finalement, a livré une partie de territoire libyen aux Russes et qui va être une zone d'influence parce que les Occidentaux ne vont pas laisser les Russes s'installer durablement dans une région très proche des intérêts occidentaux. Ça va être aussi dangereux pour lui aux yeux surtout des États-Unis puisque Haftar entretient de bonnes relations avec Washington, avec Paris, avec plusieurs capitales occidentales, en voyant en lui finalement l'homme qui a contré l'expansionnisme radical, c'est dangereux pour lui parce que les Américains et les Occidentaux, dans ce contexte de la guerre en Ukraine, ne veulent surtout pas d'une augmentation des capacités militaires de la Russie en Méditerranée.
Des propos recueillis par Paul Lorgerie. Toujours au Proche-Orient, alors que le Hamas et 2 autres groupes palestiniens ont laissé entendre samedi qu'un accord pour une trêve à Gaza était plus proche que jamais. 35 personnes sont mortes ces dernières 24 heures dans des frappes dans l'enclave palestinienne, selon la défense civile. Dans le même temps, l'aide rentre au compte-gouttes. Seule 10 de camions d'aide humanitaire a pu distribuer de l'eau et de la nourriture en 2 mois et demi, d'après l'ONG Oxfam hier. Notez par ailleurs qu'après bientôt 1 mois de trêve entre le Hezbollah et Israël, Israël qui s'accusent mutuellement de l'avoir violée à plusieurs reprises. 7 Libanais détenus par Israël ont été libérés hier à la frontière. Ils ont été remis à la FINUL, selon l'agence de presse ANI. L'armée israélienne a aussi mené hier d'importants bombardements dans le village de Kfar Kila, dans le sud Liban. Une semaine après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 35 morts et plus de 3000 blessés, journée de deuil national aujourd'hui en France. Une minute de silence doit être observée dans tout le pays à 11h, heure de Paris. Tous les Français sont appelés à l'observer, c'est ce que fera notamment Asma Faradji. Elle est présidente d'une association d'étudiants mahorais et espère pouvoir partager cet hommage avec le plus de monde possible.
Moi, comme je fais un peu de couture, je vais essayer de faire quelques écharpes pour qu'il y ait un maximum de personnes qui portent l'écharpe avec l'Ilang Ilang, qui symbolise Mayotte, qui était portée par les femmes leaders qui ont combattu pour que Mayotte reste dans la France. On essaye de réunir toutes les personnes qui sont sensibles à la cause Mayotte. Donc moi, étant présidente d'association, je vais proposer aux étudiants que nous suivons s'ils sont disponibles pour venir nous rejoindre pour cette minute de silence et ce moment de recueillement pour penser et se mettre en totale communion pour penser à Mayotte.
Un témoignage recueilli par Louis Cal et on reparle de cette journée de deuil national, de la situation sur place à Mayotte. À 6h20, temps universel avec la grande invitée internationale Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte. Elle sera au micro de Julien Coquel-Rouhem. Alors, est-ce aujourd'hui, jour de deuil national, que François Bayrou, le Premier ministre français, va annoncer la composition de son gouvernement? Il a promis de le faire avant Noël, la fenêtre de tir est donc réduite. Il a échangé plusieurs fois avec Emmanuel Macron hier et s'est entretenu dans la soirée avec lui à l'Élysée. Les derniers réglages sont en cours, fait savoir son entourage. En Allemagne, le gouvernement d'Olaf Scholz promet une enquête rapide et minutieuse. 3 jours après l'attaque meurtrière à la voiture Bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, qui a fait 5 morts et plus de 200 blessés. Présenté à un juge samedi soir, le suspect, un médecin saoudien de 50 ans dont l'idéologie serait celle d'un opposant à l'islam, a été placé en détention provisoire. Selon le magazine allemand Der Spiegel, les services secrets saoudiens avait alerté il y a un an les services allemands. Un drame qui aura des conséquences pour la campagne électorale alors que des législatives anticipées doivent avoir lieu le 23 février. Pour le gouvernement du chancelier Scholz qui était sur place avant-hier, les polémiques sur les éventuelles erreurs des autorités sur l'auteur de l'attaque, dont la dangerosité aurait été sous-estimée, tombent très mal. L'extrême droite espère en revanche tirer profit de cette tragédie. Les explications de Pascal Thibault.
Warum, pourquoi? Dans un éditorial hier, le journal Bild am Sonntag s'interrogeait. Pourquoi les autorités allemandes n'ont-elles pas réagi à temps alors que l'auteur de l'attaque, après un procès en 2013, des informations venant de son pays d'origine, l'Arabie Saoudite l'an dernier, ou tout simplement ses nombreuses publications sur le net, pouvait laisser penser que sa frustration contre les autorités allemandes pourrait déboucher sur des actes violents. Autant de questions auxquelles le gouvernement promet de répondre rapidement et de façon détaillée. La ministre de l'Intérieur, les responsables des services seront auditionnés dans une semaine, malgré la trêve des confiseurs, par une commission parlementaire. L'attaque de Magdebourg peut changer le cours de la campagne électorale, alors que le chancelier Scholz et son parti en difficulté ne décollent pas dans les sondages. Les autres partis ne jettent pas d'huile sur le feu, conscients du côté explosif de cette thématique, sauf le parti d'extrême droite AFD à 20%. En deuxième position dans les sondages. L'Alternative pour l'Allemagne dénonce le laxisme des autorités et leurs erreurs et manifestera ce soir à Magdebourg. Pascal Thibault, Berlin RFI.
23h08 à Panama où le président se lève contre Donald Trump. Le président élu américain de retour à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain menace de reprendre le contrôle du canal de Panama, point de passage entre les océans Atlantique et Pacifique. Invité hier de Turning Point America, une organisation ultra-conservatrice qui défend notamment les valeurs du Parti républicain sur les campus américains. Il a de nouveau listé ses promesses pour les 4 ans à venir. Les précisions à New York de Loubna-Naki.
Vous connaissez le canal de Panama ?
Le canal de Panama. Quelques heures après en avoir parlé sur ses réseaux sociaux, Donald Trump est revenu à la charge devant ses alliés, ses donateurs et ses partisans rassemblés à Phoenix. Le président élu estime les droits de passage imposés aux navires américains ridicules et menace de reprendre le contrôle de la voie de navigation.
Le canal de Panama est un atout vital pour les États-Unis, mais on se fait arnaquer.
Lors de ce discours, Donald Trump a également répété les mesures qu'il compte imposer dès sa prise de fonction le 20 janvier prochain. Immigration, économie, environnement, le républicain promet, je cite, de redessiner l'avenir de son pays. Il a également répondu à ceux qui l'accusent d'être sous l'influence d'Elon Musk.
Ils disent le président Trump a cédé la présidence à Elon Musk. Non, non, c'est juste que j'aime les gens intelligents. Et il fait un travail formidable. Et puis il ne sera pas président, ça je vous rassure, car il n'est pas né américain.
Donald Trump a défendu son choix de donner au patron de Tesla un rôle dans son administration et estime, je cite, que son gouvernement sera le meilleur de l'histoire des États-Unis. Lubna Anaki, New York, RFI.
Donald Trump qui a aussi dit vouloir stopper le délire transgenre. Ce sont ses mots dès son investiture. Il a martelé qu'il signerait des décrets pour exclure les transgenres de l'armée, des écoles primaires, des collèges et des lycées. Alors que l'Ukraine compte mettre fin le 1er janvier au contrat qui permet au gaz russe de transiter par son territoire. Vladimir Poutine a reçu hier Robert Fico, premier ministre slovaque au Kremlin. La Slovaquie, pays enclavé plutôt. Le président russe avait promis encore plus de destruction à l'Ukraine après une attaque de drones samedi contre des immeubles de Kazan, ville située à 1000 km de la frontière ukrainienne. Pour la première fois en 7 ans, le Parlement du Salvador devrait à nouveau autoriser l'extraction minière dans le pays. Au grand dam des défenseurs de l'environnement et de l'opposition, le pouvoir compte bien profiter des gisements disponibles dans ses sous-sols et notamment de l'or. Explication de Simon Rosé.
Le vote au Parlement du Salvador s'annonce être une formalité. Le président Nayib Bukele y dispose d'une très confortable majorité et il entend bien lever l'interdiction qui entrave le secteur minier depuis 7 ans. En 2017, le Salvador devenait en effet le premier pays au monde à interdire toute mine, souterraine ou à ciel ouvert. Un gâchis, selon le chef de l'État, qui révélait il y a quelques semaines une étude. Le pays disposerait de la plus forte densité au monde de gisements d'or. Sur 4% de la zone potentielle, 50 millions d'onces d'or ont été identifiés, évalués à 131 milliards de dollars, l'équivalent de 380% du PIB du pays, écrivait Nayib Bukele sur le réseau social X, sans toutefois révéler l'étude en question. Cette ressource, quelle qu'en soit l'ampleur, devrait donc être ouverte à l'extraction, au grand regret de l'opposition et des défenseurs de l'environnement qui déplorent le manque de débat et les risques de contamination des cours d'eau. Le projet de loi contient néanmoins quelques garde-fous. Seul l'État sera autorisé à prospecter et extraire les minéraux. Et l'usage de mercure dans le processus devrait rester interdit.
Simon Rosé. Alors que 34% des livreurs affirment avoir déjà été victimes de discrimination pendant leurs heures de travail, plusieurs plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo ont mis en place au printemps un dispositif d'alerte pour les aider à lutter contre ce phénomène. Mais force est de constater que depuis, rien n'a vraiment changé. Le reportage pour RFI de Marie Leveugle.
Il pleut des cordes ce dimanche après-midi. Ahmed s'est abrité sous le vent d'un restaurant en attendant une livraison, mais ce n'est pas la pluie qui peine le plus ce jeune livreur.
Des fois, tu rentres dans le restaurant, il y a des regards, il y a des mots. Une fois, je me suis trompé de commande, je lui ai donné la mauvaise. Il m'appelle par téléphone, ouais, t'es où, sale voleur, reviens. Plein de fois, on reçoit des dislikes alors qu'on n'a rien fait, des signalements, voilà.
Or, au bout de trop de signalements, leur compte professionnel peut être suspendu. En 2021, Uber Eats a interrogé 30 000 livreurs. 1 sur 5 a reconnu être victime de discrimination raciale. Mais ce chiffre est sous-estimé, car de nombreux livreurs travaillent illégalement, faute de pouvoir acquérir une licence. Pour les livreurs dont le compte est certifié, les plateformes de livraison ont promis des mesures, notamment désactiver les comptes des clients ou restaurateurs, auteurs d'infractions. Mais pour Ludovic Rioux, de la CGT Transport, cela ne suffit pas.
Tant qu'il n'y a pas une responsabilité qui pèse sur les plateformes qui emploient les livreurs de fait, ça ne résoudra pas le problème.
Le syndicat demande que les livreurs acquièrent un statut salarié pour bénéficier des mêmes droits que les autres employés.
Marie Leveugle, il est 23h14 à Montréal, 5h14 à Belgrade et Paris.
Alban Leprince.
Merci d'écouter RFI. Au sommaire de ces 20 prochaines minutes, menace sur les sapins québécois, les baumiers, une espèce produite au Québec, craint le changement climatique. Résultat, les producteurs doivent s'adapter. Nous irons aussi en Serbie où les autorités utilisent désormais des logiciels espions contre les journalistes et les élus, alors que le pays est secoué depuis plus d'un mois par un mouvement de protestation. L'invité culture du jour est kényan Evans Mbuga, qui expose en ce moment à Paris ses peintures sur plexiglas. Le conseil santé du jour concerne beaucoup de monde, hein, puisqu'on parlera de la chute de cheveux. Et puis le choix musical de la programmation de RFI aujourd'hui, c'est Gabriela Lima et Vanille avec Sémé Chamar et Ovo. En cette veille de réveillon de Noël, nous sommes nombreux à avoir déjà acheté et décoré nos sapins de Noël. Il y a les Nordman, Épicéa, mais aussi les baumiers, une espèce que l'on retrouve beaucoup au Québec. Problème, il est en danger. La faute au changement climatique, car il craint les trop fortes variations de température. Alors sur place, les producteurs s'adaptent pour réussir à satisfaire leur clientèle. C'est votre reportage international, il est signé Pascal Guéricola.
Ça va être important de le mettre dans l'eau.
Oui,
en arrivant, c'est...
Venus chercher leur sapin de Noël dans une plantation, ses clients écoutent les conseils pour éviter qu'il ne sèche et ne perde ses aiguilles.
Excellent, parce que ça a vraiment besoin d'eau, c'est la nature, et puis il va revenir comme au printemps.
Les acheteurs ne se doutent pas cependant des difficultés de culture que rencontre Junior Belleville, copropriétaire de Mon Beau Sapin. L'augmentation des températures nuit à ces arbres caractéristiques de Noël. Il pousse en rang serré dans une série de champs enneigés, non loin de la ville de Québec.
Le petit sapin, lors des deux premières années, a besoin de beaucoup de neige pour être isolé du froid. Dans le fond, on a de moins en moins de neige au Québec. Ensuite, les deux derniers hivers, on a eu des fortes pluies. Après ça, c'est suivi de grands froids. Le gel pousse les sapins en dehors du sol. Ici, on a un sapin mort là, qui a été implanté là, un an. Il n'y a pas assez de neige, il y a trop de pluie. C'est vraiment compliqué.
Pour éviter les pertes, Junior Belleville varie les espèces de sapins selon le sol. Il lui faut aussi installer des tuyaux souterrains et des fossés pour éviter que l'eau ne s'accumule. Les pluies hivernales, aujourd'hui plus fréquentes, ont tendance à faire pourrir les racines.
Ouais, on va passer à gauche. Ça, c'est les fortes pluies de cette semaine. On voit là, les grandes flaques. Alors, regarde ces sapins-là. Ils ont été plantés en même temps que les sapins en haut. Ils ont environ quoi? 2 pieds de moins? Ils ont de la difficulté avec les fortes pluies.
Certains producteurs de sapins doivent se détourner de la culture du baumier, considéré pourtant comme l'arbre caractéristique de Noël au Québec, parce que cette variété déteste les changements de température. Loïc d'Orangeville, professeur en écologie forestière à l'Université Laval, constate le déclin de ce sapin dans l'est du Canada.
C'est vraiment une espèce d'arbre qui est idéale pour la culture, mais là, les changements climatiques viennent un peu brouiller les cartes. On a des sécheresses de plus en plus fréquentes, donc ces sécheresses-là, ça impacte particulièrement le sapin parce qu'il y a besoin d'un climat assez constant. Et là, c'est de moins en moins ce qu'on retrouve et il est très vulnérable, très susceptible à des insectes, à des pathogènes, à des champignons et donc tout ça, ça l'affecte.
À entendre le chercheur, ce sapin va perdre sa position dominante dans les forêts canadiennes, laissant la place à des espèces qui apprécient davantage la hausse des températures. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
On prend la direction de la Serbie à présent, où Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Un rapport révèle que la police et les services de renseignement serbes utilisent des logiciels espions avancés pour téléphone et des outils d'analyse de données personnelles pour cibler illégalement des journalistes, des militants écologistes et d'autres individus dans le cadre d'une campagne de surveillance clandestine. Bonjour Laurent Rouy.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Belgrade, cette révélation fait suite à une récente affaire en Serbie. Vous pouvez nous en parler ?
En effet, tout part de la mésaventure, si je puis dire, d'un journaliste serbe. En février de cette année, le spécialiste de l'investigation Slavisa Milanov est arrêté sur la route par la police qui l'emmène au commissariat, soi-disant pour un contrôle d'alcoolémie et d'utilisation de stupéfiants. Milanov a dû, à la demande des agents, leur confier son téléphone. En tout, diverses vérifications et interrogatoires durent 2 heures et demie. Après la récupération de son téléphone, Slavisa Milanov remarque des anomalies et contacte Amnesty International qui procède à une analyse approfondie de l'appareil.
Alors pourquoi Amnesty International a mis si longtemps à publier cette information ?
L'ONG n'a pas donné de réponse à cette question, mais elle signale d'autres cas d'infection de téléphone d'activistes par un logiciel espion inconnu nommé NoviSpy. Et ces autres cas sont plus récents. Notamment, un activiste russe contre la guerre en Ukraine résidant en Serbie voit son téléphone piraté en octobre 2024. Des cas encore plus récents liés aux manifestations anticorruption qui agitent actuellement la société en Serbie indiquent que des activistes auraient eu leur téléphone infecté le mois dernier.
Et d'où vient ce logiciel, on le sait ?
Il s'agirait d'un logiciel unique développé par les services secrets serbes, le BIA, à partir d'un autre logiciel israélien, celui-là acheté dans le cadre d'un programme d'aide à la lutte contre la criminalité organisée, programme financé par les Nations Unies et par la Norvège. Bien évidemment, la loi serbe n'autorise pas la surveillance électronique des citoyens ordinaires et la révélation de l'information a provoqué une réaction de la Norvège qui a qualifié les informations d'inquiétantes et inacceptables. Le pays demande aux Nations Unies qu'une enquête soit menée auprès des autorités serbes.
Et qu'est-ce qu'on en pense en Serbie ?
Les services secrets serbes ont catégoriquement démenti l'information, de même que la police. Pour le BIA, Amnesty International se met au service de groupes de pression. Notons que l'ONG a mis en ligne un mode d'emploi pour vérifier si son téléphone est infecté par le logiciel. On ne sait pas pour le moment le nombre d'activistes et de journalistes serbes ayant effectué la vérification.
Merci beaucoup Laurent Rouy, correspondant de RFI à Belgrade. L'invité culture du jour nous fait découvrir le plexiglas sous toutes ses formes. Le plasticien kényan Evans Mbuga, célèbre pour ses peintures sur plexiglas, expose en ce moment ses œuvres à la galerie Art Z à Paris. Une façon symbolique pour lui de briser et réparer les histoires de ses personnages et de son pays. Evans Mbuga, invité d'Olivier Roger.
Bonjour Evans Mbuga.
Bonjour.
Vous exposez en ce moment à la galerie Art Z de Olivier Sultan à Paris. On vous connaît pour vos peintures sur plexiglas. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que vous avez brisé ces plexiglas pour les reconstituer. Vous voulez faire des vitraux, c'est ça ?
Oui. Mais en fait, je travaille avec ce support depuis le début dans cet objectif de un jour atteindre les vitraux. Et à un moment, en fait, j'ai un tableau qui s'est cassé, littéralement en deux.
Donc c'est un hasard alors.
C'était à la fois un hasard, mais ça faisait un moment que je me demandais si un jour j'allais pas couper mes tableaux, mais je n'osais pas. J'avais peur, je me disais que ça qui l'est, c'est pas possible. Et là, hop, il y a un tableau qui se casse. Et je venais de faire un tour en Espagne et j'ai vu de près un panneau de vitrail qui était en réparation. Et je remarquais qu'en fait, il y avait plusieurs techniques qu'il y avait dessous. Donc, il y avait le plomb, comme on connaît sur le vitraux. Mais aussi, il y avait du fil de fer qui venait renforcer, qui venait tenir les morceaux ensemble. Et de retour dans mon atelier à Paris, je me suis mis, en effet, à utiliser du fil de fer pour réparer, pour assembler ces différents morceaux de tableau que j'avais découpés. Et finalement, je me retrouve à la fois avec ma propre technique de vitrail, mais aussi revisiter kintsugi, qui est une ancienne technique japonaise de réparation des peaux cassées. Et en fait, j'ai vraiment aimé toutes ces influences du monde, des cultures, des traditions qui se sont retrouvées dans mon atelier et sur lesquelles je me suis approprié pour en refaire ces tableaux que je présente ici aujourd'hui.
Alors symboliquement et visuellement, on a le sentiment que vous réparez des personnages puisque les personnes que vous avez peintes sont brisées et reconstituées. Vous voulez quoi, symboliquement réparer les blessures de ces gens ?
Je suis en quête d'une certaine réparation personnelle qui est liée à une histoire assez récente que j'ai découverte dans ma famille, qui est liée à l'histoire de mon pays, de Kenya, et sur lequel, en fait, à travers le colonialisme, à travers tout le mal que l'être humain a pu faire dans le passé, je pense qu'on est aujourd'hui amené à revenir sur ce qui s'est passé dans le passé, et au lieu de cacher certaines informations, au lieu de vouloir nier certaines histoires. Je pense que nous avons le devoir, nous tous, de revoir l'histoire et de l'assumer, parce qu'il fait partie de notre ADN. Ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui se sont passées dans les années 50, 60, 70, historiquement dans mon pays, qui aujourd'hui, on n'en parle pas, on ne veut pas parler, qui ne sont pas racontées, qui ne sont pas...
Les crimes.
Voilà. Et moi, je veux qu'on puisse en parler, qu'on puisse se réparer psychologiquement les uns et les autres, parce que plus... on va, plus les générations futures vont nous poser des questions sur pourquoi nous avons caché des choses, pourquoi nous n'avons pas assumé des choses. Et dans ce travail-là de reconstruire nos identités, c'est ce que je nous invite aujourd'hui à faire.
Merci beaucoup, Evans Bouga.
Et pour découvrir son travail, rendez-vous sur son site internet evansbouga.com.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et aujourd'hui, on s'intéresse à un phénomène qui touche aussi bien les hommes que les femmes. La chute de cheveux, maladies, problèmes hormonaux, carences, les raisons peuvent être nombreuses. Et pour en parler, Caroline Paré reçoit ce matin le professeur Moussa Diallo.
Professeur Moussa Diallo, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes dermatologue et responsable du laboratoire de dermatologie à Dakar, au Sénégal. Lors de vos consultations, à quelle cause attribuez-vous le plus fréquemment les chutes ou les pertes de cheveux ?
50% des chutes de cheveux en Afrique sont causées par les soins capillaires. Les diffusages chimiques à partir des produits qui ont pH très élevé, qui sont très basiques, comme la soude. Ensuite, il y a les tresses qui sont très serrées. Et enfin, il y a également les rajouts. Donc, c'est les trois principaux facteurs qui ressortent, en tout cas dans les études qui ont été effectuées. C'est les trois principaux facteurs.
Perte de cheveux suite aux soins cosmétiques, quels soins en particulier ?
Ces pratiques capillaires, encore une fois, occasionnent très facilement une chute de cheveux chez la population noire africaine du fait des particularités des cheveux de la femme noire africaine. C'est des cheveux qui sont moins amarrés à la peau. Ils ont moins de fibres d'amarrage. Si vous tirez un cheveu caucasien, africain et asiatique, le cheveu africain va se rompre en premier. Donc, il est moins résistant et en plus, enfin, c'est un cheveu qui est tordu, qui est en sur lui-même, il est spiralé. Donc, il est faible géométriquement. Donc, il se casse très facilement. Et enfin, il est moins lubrifié parce que le sébum passe moins sur le cheveu. Et donc, il a tendance à être beaucoup plus sec. Donc, il y a des particularités déjà anatomiques qui prédisposent donc à une fragilité de ces cheveux. Et malheureusement, ces pratiques capillaires qui sont ancrées dans la culture de la population nord-africaine occasionnent très vite ces chutes de cheveux.
Merci professeur Moussa Diallo. Et aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle de la prévention des maladies et accidents professionnels au lendemain de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Favoriser un environnement sain et sûr pour les travailleurs, identifier les facteurs et les symptômes de maladies professionnelles. On se retrouve à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'application RFI Pure Radio. Et pour nous joindre, notre numéro WhatsApp, le 33 7 71 18 46 41.
Tout est bien noté, Caroline. Merci. On termine cette édition en musique avec le choix de la programmation musicale de RFI. Ce matin, Gabriela Lima, autrice, compositrice et interprète brésilienne. Arrivée en France il y a 10 ans, elle nous propose un duo avec Vani. Ça s'appelle C'est mes chamars et où vous. Merci d'écouter RFI. Bon réveil à vous.
No alaranjado esplendor, sal no corpo é sabor pra lembrar. Sim, eu sei, meu país, eu tô longe, eu parti. No inverno a Paris e te sinto daqui. Mas se me chamar eu vou, se do sol e quero pôr. Minha sede é de mar, meu respiro é o calor. Mas se me chamar eu vou, se do sol e quero pôr. Sou daqui, sou de lá. En chemin, que renaisse le feu qui brûlait dans tes yeux un matin. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, le toujours, pas demain. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau. Le monde beau, changer de peau.
Gabriela Lima et Vanille, c'est mes chamarres et ovo sur RFI. Restez avec nous dans moins d'une minute, le journal Afrique avec Charlotte de Rouen.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi une île, continent ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Rencontre avec des scientifiques malgaches à l'œuvre sur tous les terrains pour étudier et préserver l'extraordinaire biodiversité de Madagascar. Ses forêts sèches et humides, ses hauts plateaux montagneux, tous ces écosystèmes uniques de l'île rouge. Comment les chercheurs malgaches s'engagent ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.